Meilleures salutations à tous. Merci de ces chants. Et merci du privilège d'être avec vous aujourd'hui ici à Lux. Hein, moi-même, je viens de Lux, dans le Pays Basque, Lux Sumberotte, L-U-X-E, et plus loin, Sumberotte. Hein, donc, les grands esprits se rencontrent quand même. Hein. Alors... Je profite aussi de l'occasion pour dire un petit mot sur l'Amébie. Hein? Alors, il n'y a pas monsieur 2 minutes pour m'arrêter. Hein? Donc, mais j'en parlerai pas plus de 2 minutes quand même. Ah, il est là. Et il me surveille. C'est parti. Alors, je remercie le Seigneur d'avoir l'honneur d'appartenir à cette petite mission française Amébie. Et j'aimerais parler ce matin de ceux qui portent leur croix. Eh bien, ceux qui font partie de leur mission, de cette mission, portent la croix. Hein, nous avons ici Jean Bayeux en Belgique, à la frontière franco-belge, qui reçoit chez lui de très nombreuses personnes, qui fait des camps en ce moment même. On a parlé hier de l'Algérie, il y a Abdennour Benhamer qui fait des émissions qui sont transmises à la radio en langue kabyle presque tous les jours de la semaine. Ils reçoivent un abondant courrier. Samuel et Isabelle Boum, ils ont été mentionnés au Cameroun, hein, et qui, dans des situations matérielles très difficiles, annoncent la parole de Dieu, le Seigneur les bénit. Joël et Camélia Chiron en Bulgarie, j'étais chez eux il y a une année et j'ai pu visiter 7 de leurs 9 églises. Alors, je suis pas le seul à être allé les visiter, hein. Nombreux sont ceux qui y sont allés. Alors, quand vous allez dans une église qu'elle est pleine, une deuxième qu'elle est pleine, une troisième, vous vous dites, c'est formidable, je veux venir servir le Seigneur en Bulgarie, hein. Mais après, on vous présente la Bible en bulgare. Ah, il faut apprendre le cyrillique. Vous allez chez Joël Chiron, vous voyez comment il habite, il n'y a pas de chauffage central, il n'y a pas... Et alors là, les Français, petit à petit, se rendent compte qu'il faut porter la croix, hein. Et Joël Chiron n'a pas une foule de gens qui se bousculent pour aller l'aider, hein, figurez-vous. Il s'agit de porter la croix, d'être jour après jour, de voyager sur des routes où il y a plus de trous que de goudron. De recevoir, comme ceux qui travaillent en Afrique, de recevoir tous les jours des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui viennent vous demander une aide. Et vous pouvez en aider quelques-uns, mais en aucun cas vous ne pouvez les aider tous. Comment vous choisissez lesquels vous aidez, lesquels vous n'aidez pas? C'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Camélia a beaucoup de mal avec cette question, comment refuser, comment... On aimerait donner à tous, mais après, on ne peut pas. Hein. Priez pour eux. Marc et Nadia Daven aussi, qui veulent partir en Bulgarie aussi, ils ont déjà un logement là-bas. Eric et Eliane Osak au Pays Basque, je ne les connais pas. Saleh Khaled qui travaille auprès des Maghrébins, lui aussi, il porte sa croix pendant des années. En tant que célibataire, il est allé dans les foyers Sonacotra faire du porte-à-porte, annoncer la parole de Dieu aux gens. Allez-y si vous voulez, vous allez voir, hein, commencez. Hein. Mais grâce à Dieu, le Seigneur l'a béni et il a pu commencer plusieurs églises uniquement en langue maghrébine. Hein. On ne parle pas français dans ces églises, eh bien en France, il y en a plusieurs, merci Seigneur. Michel et Magali Rico, donc, en Afrique du Nord, ils ne veulent pas qu'on dise quel pays ils sont, mais priez pour eux, ils ont des décisions importantes à prendre en ce moment. Et sur ce bulletin, il y a encore Janine Chazal, hein, qui a passé une année en Côte d'Ivoire, et allez lui demander, elle n'est pas morte, hein, elle est toujours là, hein, et merci Seigneur. Et donc, c'est une mission qui peut vous aider à... un ministère outre-mer, un ministère en Europe, un ministère en France. Hein, plusieurs pasteurs français sont en train d'adhérer à cette mission pour s'en sortir, tout simplement, hein, s'en sortir. Et puis même une année, 2 années, on n'est pas engagé forcément à vie dans cette mission. Donc on remercie le Seigneur pour ce travail. Alors Greg nous a lu tout à l'heure ce passage... de la crucifixion de Jésus en Marc 15, 21-22, Et c'est le premier qui a porté sa croix. Hein, vous allez me dire comment il s'appelle. Hein, à part Jésus, hein, Simon de Cyrène. Hein. Et nous allons parler de cet homme, de sa vie et de ce que cela nous enseigne à nous aussi. Je suis content aussi de m'adresser ce matin à des gens qui savent ce que c'est porter leur croix. Pas tous peut-être, mais plusieurs d'entre vous savent ce que c'est de porter sa croix. Rien que le fait d'être un serviteur de Dieu en France, c'est une croix. Hein. Je préférerais aller au Brésil. Hein. D'ailleurs, ils ont la meilleure équipe de foot. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Mais en tout cas, vous avez des conversions en masse, etc. C'est formidable. Hein. Rien que de rester en France, servir le Seigneur, déjà on porte sa croix. Hein. Rien que d'avoir le salaire d'un pasteur français, hein, on porte sa croix, hein, plusieurs d'entre nous pourraient gagner 2, 4, 10 fois plus hein, dans le monde, mais nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous tenons bon malgré les difficultés, mais c'est porter sa croix aussi. Et puis certains d'entre vous aussi, je ne vous connais pas tous, mais je suis sûr qu'il y a parmi nous des gens et qui sont atteints de maladies graves, de maladies incurables. Alors nous savons que Dieu guérit, mais pas toujours, pas tout le temps, c'est pas toujours sa volonté. Et tant qu'on n'est pas guéri, là aussi, c'est porter sa croix, d'être touché par cette maladie et de se dire, Seigneur, tu as le pouvoir, pourquoi ne le fais-tu pas? Et le Seigneur nous répond comme il a répondu à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Hein, ça, c'est porter sa croix aussi. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur éternel, combien nous sommes reconnaissants d'être ici en toute liberté, dans un beau pays, pour nous rassembler autour de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et nous te remercions de cette liberté, nous te remercions du privilège, nous te remercions de l'opportunité de nous approcher de toi et même pendant ces quelques jours, de nous approcher de ta croix. Quel privilège de nous approcher de la croix. Lorsque tu es mort, tu étais pour la plupart des gens un sujet d'étonnement, un sujet d'horreur, un sujet de curiosité. Et tu es pour nous, Seigneur, un éternel sujet d'admiration et d'adoration. Nous savons, Seigneur, que dans le royaume de Dieu, quand nous serons avec toi, tu auras encore les clous, les traces des clous dans tes mains, dans tes pieds. Nous savons que l'agneau qui est au milieu du trône, dans le livre de l'Apocalypse, est comme immolé, car pour l'éternité sera rappelé ce que tu as fait pour nous. Et tu nous demandes simplement, Seigneur, de participer. Nous ne pouvons pas faire la rédemption à ta place, mais simplement de faire notre part, de participer à annoncer l'Évangile à ceux qui sont autour de nous, qui sont perdus, à prendre notre croix et à te suivre. Seigneur, tu ne nous as pas fait de fausses promesses, tu ne nous as pas trompés, tu nous as dit de quoi il s'agissait, quelle était la difficulté. Nous te remercions de ce que tu nous donnes jour après jour la force de continuer et d'être plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Amen. Alors j'ai besoin d'un volontaire, mais il le sait, il est là, s'il veut bien venir. Alors, j'aimerais que l'on se représente, voilà, mets-toi là. Merci. J'aimerais qu'on se représente la scène telle qu'elle s'est passée réellement. Le Seigneur Jésus-Christ, qui avait été déjà frappé, battu, humilié fortement, partait maintenant vers le calvaire. Il partait vers la croix. Et il avait tellement été frappé, tellement été battu, il avait la couronne d'épines, le sang coulait sur son visage, qu'il ne pouvait plus porter cette croix. Alors vous imaginez bien que celle-ci est bien jolie, hein. La vraie croix était simplement deux poutres de bois ordinaires, rugueuses, non rabotées, qui étaient assemblées, et le but c'était de faire souffrir, hein, ce n'était pas d'avoir un but décoratif, c'était beaucoup plus grand que cela. Et donc, à tel point que Jésus ne pouvait plus porter cette croix, il tombait sous le fardeau de la croix. Et voilà que était la foule assemblée. Si vous allez à Jérusalem, je n'y suis pas allé, mais on le voit quand on voit des reportages, les rues sont très étroites. Et il y avait une foule de gens des deux côtés pour suivre ce morbide spectacle. Et ils se pressaient pour voir, et les soldats romains, avec une grande brutalité, devaient repousser les gens avec leurs boucliers, avec leurs lances, pour que le condamné puisse passer. Et puis le centurion, vraisemblablement, voyant que ce condamné-là ne pouvait pas porter sa croix, a jeté un bref coup d'œil autour, et il a vu quelqu'un, lui, et il l'a attrapé comme ça, excuse-moi, hein, et il lui a dit, toi tu vas porter la croix. Hein? Il est, excuse-moi, hein, t'as pas eu peur? il lui a pas dit, écoutez monsieur, veuillez avoir l'obligeance de vous saisir de cet objet, hein, ça nous rendrait, pas du tout, hein, avec une grande brutalité. Et est-ce qu'il avait le choix de ne pas porter la croix? Hein? Il était là sous l'autorité romaine, sous la violence et la brutalité, il a pris. Merci. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Hein? Vous savez que sur la Passion de Christ, il y a un film qui est sorti l'année dernière, mais il y a eu en tout dans l'histoire du cinéma 100 films sur le sujet de la Passion du Christ, parce que c'est le sujet le plus étonnant de l'histoire de l'humanité. Et les premières à en avoir fait un, ce sont les frères Lumière qui sont les inventeurs du cinéma. Ils ont fait déjà un film de la Passion à l'époque. Eh bien, des fois, on le voit d'une présentation romantique, hein, que c'est beau, les dames pleurent, les disciples sont contrits, les soldats sont polis. Hein, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. Hein, c'est d'une grande violence, d'une grande brutalité. C'était la cruauté de l'armée romaine, la poigne de fer, et le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup souffert de ce moment jusqu'à ce qu'il soit amené à la croix. Mais ce Simon de Cyrène, qu'est-ce qu'il avait à voir là-dedans? Qui était-il pour avoir été choisi comme ça au milieu de la foule? Il revenait des champs, il voulait rentrer chez lui. Je pense qu'il était harassé après une journée de travail, et voilà qu'on le saisissait, qu'on lui disait, c'est toi qui vas porter la croix du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est un événement extraordinairement difficile, douloureux dans la vie de quelqu'un, parce que quand vous portez la croix, qu'est-ce que ça signifie à cette époque? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes mort, vous êtes condamné, c'est fini. Hein? Votre vie est terminée, il n'y a plus le moyen d'y échapper, il ne vous reste plus qu'une longue souffrance, une longue agonie, c'est tout. Hein? Eh bien, ce Simon de Cyrène, il passait dans les rues, les gens le regardaient, ils ne savaient pas trop pourquoi est-ce que lui portait la croix. Hein? Eh bien, en portant la croix de Jésus, il était lui aussi considéré comme un condamné à mort. Hein? Mais nous aussi, hein? C'est le sens de la croix pour nous. Hein? C'est ça le sens de la croix. Que nous aussi, nous soyons par les hommes considérés comme des condamnés à mort, comme des gens que l'on promène dans les rues de la ville avant de les exécuter. Hein? Et vous savez que dans le monde, il y a bien des gens qui aimeraient nous infliger ce traitement. Hein? Ça leur ferait le plus grand plaisir s'ils pouvaient crucifier tous les disciples de Christ. Il y en a trop, malheureusement. Hein? Ils n'y arriveront pas malgré leur volonté. Hein? Mais le Seigneur nous appelle, nous aussi, à nous saisir de la croix du Seigneur et à la porter. Mais est-ce que Simon de Cyrène a regretté d'avoir porté la croix? Vous êtes déjà posé la question, hein? On le voit souvent dans les films de la Passion, il porte la croix. Alors il y en a certains même où il encourage le Seigneur, vas-y, voilà, bon. Hein? Mais remarquez ce qui est écrit ici. un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Alors, vous qui êtes géographe, où se trouve, d'où venait ce Simon de Cyrène? Hein? Ah, on a quelqu'un qui est au courant, là. Hein? De la Cyrénaïque, hein? Qui était la province romaine, qui est aujourd'hui la Libye, que vous avez là, à côté de l'Égypte, hein, dans l'Afrique du Nord. Hein. Et donc cet homme était libyen, peut-être était-il noir, ou peut-être était juif de toute façon, puisqu'il habitait à Jérusalem. Et en tout cas, il a porté la croix de Jésus. Et remarquez pourquoi est-il dit père d'Alexandre et de Rufus. Hein. Vous les connaissez, vous, Alexandre et Rufus? Hein? Pourquoi est-il dit père d'Alexandre et de Rufus? Eh bien, si l'évangéliste l'a écrit, c'est qu'Alexandre et Rufus étaient connus des chrétiens, hein? Et que, en réalité, Simon de Cyrène ne s'est pas borné à porter la croix du Seigneur, mais il est devenu chrétien lui-même. Et ses deux fils, Alexandre et Rufus, étaient connus des chrétiens, hein? Et même, nous lisons en Actes, Romains chapitre 16, verset 13, quand vous avez la salutation que l'apôtre Paul adresse à de nombreuses personnes. Hein. Souvent, les gens trouvent que c'est trop long de lire toutes ces salutations. Hein. Et donc, ils sautent l'introduction et la conclusion. Vous avez tort. Hein, voilà. Il faut prendre chacun de ces noms avec une concordance et vous essayer de la trouver ailleurs dans la Bible. Alors nous trouvons Romains 16, 13, salut Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Hein, on retrouve Rufus ici. Hein, et sa mère qui est aussi la mienne. Et donc, d'après les historiens, effectivement, Alexandre et Rufus ont eu un rôle important dans l'Église chrétienne. Et la mère d'Alexandre et Rufus, donc, est allée habiter à Rome. Et Paul avait des sentiments très forts pour elle, d'amitié fraternelle. C'était pour lui une mère. Et donc, on voit que cet homme qui a été saisi par les soldats romains, ce Simon de Cyrène, finalement, on trouve sa famille, pour ceux qui savent chercher, on la trouve, et toute sa famille s'est convertie. Est-ce que ça valait la peine, finalement? Hein? Est-ce que ça valait la peine, finalement? Hein? Ou est-ce qu'il aurait préféré, après recul, se dire, j'aurais préféré qu'il prenne celui qui était à côté de moi? Hein? Non. Finalement, ce Simon de Cyrène qui a été choisi brutalement par ses soldats pour porter la croix du Seigneur, il ne l'a jamais regretté. Il ne l'a jamais regretté. J'aimerais vous demander, parmi ceux d'entre vous qui portez la croix du Seigneur, est-ce que aujourd'hui vous la regrettez? Hein? Il n'y en a pas un? Allez au fond. Ah? Tiens. C'est quelque chose. Pourtant, est-ce que c'est facile de porter la croix? Hein? C'est facile de la porter autour du cou. C'est facile d'avoir un crucifix dans sa maison. Hein? C'est tout autre chose de se charger de la croix du Seigneur et de le suivre. Et puis, nous trouvons une phrase intéressante ici en Romains 16, 13 que nous avons lu. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur. Alors, comment se fait-il qu'il est l'élu du Seigneur, hein? Eh bien, justement, Simon de Cyrène est un type biblique de l'élu, justement, de l'élu. Hein? Parce que, contrairement aux élections que nous connaîtrons l'année prochaine, hein, où il y a quand même une certaine fièvre, un peu de bousculade. Hein. Il y en a qui veulent être calife à la place du calife, même maintenant si c'était possible. Hein. Eh bien, l'élection de Dieu, on ne se bouscule pas. Hein. Simon de Cyrène est un type de l'élu parce qu'il n'a pas choisi. Hein. Il n'a pas choisi, il a été choisi. Hein. Et effectivement, nous apprenons par la parole de Dieu, certes, que quand vous êtes tourné vers le Seigneur, vous pouvez dire, mais moi, j'ai choisi le Seigneur. Ah oui, mais le Seigneur dit, oui, mais tu m'as choisi, mais moi, je t'ai choisi. Hein? Alors, on s'est choisi mutuellement. Hein? Grâce à Dieu, c'est merveilleux. Hein? Et c'est ce que nous lisons en Tite, chapitre 1, verset 1. Nous lisons « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Alors j'aimerais vous poser une question pour ceux d'entre vous qui sont mathématiciens. Hein. Quel est le pourcentage des chrétiens qui sont élus? Ah, 100%, bravo. Eh oui, oui, 100%. Mais c'est facile à calculer, c'est autre chose à vivre. Hein? Parce que quand je visite beaucoup d'églises, vous savez, en France, hein? Et dans les églises, vous avez souvent une bonne moitié de l'église, vous demandez vraiment s'ils sont élus. Hein? Parce que, certes, ils ne portent pas la croix. Hein? Et même, quelque part, ils s'attendent à ce que le pasteur porte la croix pour eux. Hein? Ça, vous avez jamais vu ça quelque part? Ça vous dit quelque chose ou j'ai rêvé? Hein? Alors, ce que l'on trouve dans nos églises, hein, c'est que le pasteur, non seulement il porte sa croix, mais quelqu'un d'autre lui en a mis une autre. Tiens, voilà une. C'est ton métier, porte ma croix. Toi aussi, une croix de plus. Et le pasteur est tellement chargé, il arrive à peine à se traîner. Hein, et il porte toutes ses croix. Et puis, ceux qui lui ont donné leur propre croix, ils disent, mais... il est un peu faible. Hein. Ah, il a du mal à avancer. Hein. Ouf. Il se confie pas assez dans le Seigneur. Allez-y, pasteur, on va prier pour vous. Oui, mais si chacun portait sa propre croix, hein, dans l'église, le pasteur serait plus léger, il n'aurait plus que la sienne à porter. Ça irait beaucoup mieux. Hein. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein. Et même ceux qui sont élus du Seigneur n'acceptent pas de prendre leur croix. Ils se disent, moi je suis un simple membre d'église. Déjà, quand je chauffe ma chaise le dimanche, c'est quelque chose de merveilleux. J'aurai une place au ciel. Vous aurez une chaise au ciel, mais c'est tout ce que vous aurez, hein. Le Seigneur a pour vous autre chose que ça. Je peux vous le dire. Le Seigneur a pour vous autre chose. Il a une croix pour vous, mais cette croix est liée, toujours la croix de Jésus-Christ est liée à la gloire, la croix de Christ est liée directement à la récompense. Pas de croix, pas de récompense. Pas de croix, pas de gloire. Hein? Et je le dis à chacun, le Seigneur aujourd'hui vous appelle à chacun à porter votre croix. Si vous dites dans votre cœur, ce matin, dans votre tête, « Oh, j'aimerais que mon pasteur entende ça », vous n'avez rien compris. C'est à vous que le Seigneur s'adresse et dit « C'est à toi de porter ta croix. » Et c'est à toi d'assumer le rôle que le Seigneur te donne à faire. Mais évidemment, vous dites « Mais je ne sais rien faire ». Eh bien, Simon de Cyrène, qu'est-ce qu'il savait faire, lui, à part cultiver les champs, hein? C'était vraisemblablement un agriculteur, nous n'en savons rien de plus. Mais il a donné au Seigneur ses deux fils, hein, et sa femme a hébergé les serviteurs du Seigneur. Alors vous dites, c'est rien? Non, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Hein. Et le Seigneur nous rappelle souvent dans les paraboles que ceux qui ont reçu un seul talent se disent, qu'est-ce que je vais faire de ce talent? Je vais le cacher. Dans la terre, personne ne saura que j'ai eu un talent, mais le Seigneur sait ce qu'il vous a donné. Il vous appelle à prendre votre croix, à le suivre, à mettre au service du Seigneur ce qu'il vous a donné, et vous serez étonné de ce qui peut se passer dans votre vie, ce que le Seigneur peut faire avec vous. Et puis, si vous tournez quelques pages dans votre Bible, nous lisons en 1 Pierre chapitre 1, vous savez que je recommande souvent la lecture de Pierre et de Jacques parce qu'ils ne mâchent pas leurs mots. Hein. Ce sont des gens de simples de la région de Galilée et ils nous disent les choses franchement. Alors, 1 Pierre chapitre 1 verset 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour qu'ils deviennent, connaissez ce mot, obéissants, hein, eh oui, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Si Dieu nous a élus, hein, c'est pas comme certains qui veulent être élus pour siéger dans je ne sais quel palais, hein. Le Seigneur nous a élus pour que nous soyons obéissants. Et s'il nous a choisis et élus pour être obéissants, c'est que nous en sommes, personne ne le sait, nous en sommes capables. Si Dieu nous a choisis, nous en sommes capables. Je suis sûr que chacun se dit, ah non, papa, il y a une exception. Non, non. Vous êtes capable d'être obéissant, vous êtes capable de faire ce que Dieu vous demande dans votre vie, car celui qui appelle, c'est celui qui équipe, celui qui appelle, c'est celui qui vous donnera la force d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il vous a demandé dans votre vie. Si à Simon de Cyrène, imaginons qu'un jeune homme, je lui demande, est-ce que tu es capable de porter la croix du Seigneur ? Hein ? On en aurait trouvé combien de candidats capables de porter la croix du Seigneur? Tout le monde aurait dit, ah ben, je ne suis pas doué pour ça, je l'ai jamais fait, c'est normal, quand, dès qu'on le fait, on est mort. Alors, évidemment, on peut pas s'être entraîné à ça. Hein. Eh bien, certes, hein, certes, si le Seigneur nous choisit, c'est que nous sommes capables. Hein, c'est pas parce que nous sommes capables, c'est que nous sommes capables, parce que lui nous en donne la capacité, hein, c'est quelque chose de très important. Alors, porter sa croix, cet instrument, ce signe de mort, c'est pour ça que je recule un petit peu quand je vais, j'aime bien visiter les belles villes, même les belles églises, mais alors vous pouvez visiter des églises de style baroque et de style rococo, où vous avez des croix en marbre avec des fleurs, des décorations extraordinaires, ou en or massif, des croix en or massif, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un instrument de torture. Hein, imaginez que je vous offre une guillotine en or massif. Hein, qu'est-ce que vous en feriez? Hein, ça rime à rien. Hein. Eh bien, la croix est un instrument de déplaisir, un instrument désagréable, un signe de mort, un signe de mort à soi-même, un mort à cette vie, mais mort à une vie et vivant dans la prochaine, vivant avec Christ et en Dieu. Hein, la réalité, c'est qu'on peut pas être vivant dans les deux à la fois. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Alors, nous lisons Jésus ensuite. Nous donne plusieurs fois, vous savez que Jésus a annoncé, Luc 9, verset 23, Jésus a annoncé sa mort. Mais personne ne voulait le croire parce qu'il pensait, c'est impossible que le Fils de Dieu, qu'un grand prophète puisse mourir, ça c'est pas possible. Hein? Eh bien, malgré cela, c'est cela qu'il devait faire. Et aujourd'hui aussi, vous trouvez, hein, dans tout le monde musulman, si vous discutez avec quelqu'un, il va vous dire, mais un prophète ne peut pas mourir sur la croix. Et donc, Jésus, au dernier moment, il y a eu une interversion, on a mis quelqu'un d'autre à sa place, c'est pas lui qui est mort. Et pourtant, Jésus a dit, Luc 9, 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus l'avait annoncé clairement, mais personne ne voulait le croire. Hein, il se disait, il doit être fatigué, il doit élucubrer. Hein. Ce qu'ils attendaient, c'est que Jésus établisse son règne, qu'il aille à Jérusalem, qu'il établisse un trône dans le temple ou dans un des palais de Jérusalem, qu'il chasse Hérode, qu'il prenne sa place, qu'il chasse Ponce Pilate, et qu'il dise « maintenant c'est moi le roi ». C'est ça que les gens attendaient. Et voilà que Jésus leur annonce qu'il va être crucifié. Et puis, pire encore, il leur dit, il dit à tous, « si quelqu'un, verset 23, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas et qui n'aient vu le royaume de Dieu. Oui, Jésus nous donne ici un message et il nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix de temps en temps. C'est pas ce que vous faites la plupart d'entre vous, hein, de temps en temps, hein, le dimanche, hein, le mercredi soir peut-être, oui, oui, oui. La réunion de prière, ah là là, déjà je suis un grand chrétien, j'y vais trois fois. Mais alors qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, ça veut dire que quand je vais au travail, j'ai pris la croix de Jésus et je n'y vais pas pour plaire à mon patron, hein, ou pour le critiquer. Je n'y vais pas pour gagner ma vie, j'y vais pour servir Christ. Il n'a pas dit ça quelque part. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Même si c'est pour gagner votre vie, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça, c'est quelque chose de très important. Prendre sa croix, remarquez, c'est renoncer à soi-même. Or, quel est le Dieu de ce siècle? C'est bien l'individu, c'est bien soi-même. Aujourd'hui, l'ambition de tous les jeunes, c'est d'être la nouvelle star, la nouvelle étoile, le nouveau je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur, lui, nous propose un autre programme, renoncer à lui-même. Ça vous fait envie? Eh bien, c'est le programme du Seigneur et c'est une grande vie pour nous. Car celui qui veut garder sa vie, celui qui veut sauver sa vie, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va la perdre. Pensez justement à toutes ces stars, toutes ces étoiles. Combien de mariages, de divorces? Combien de suicides parmi leurs enfants? Combien eux-mêmes sont morts dans la décrépitude? Alors que lorsqu'on suit le Seigneur Jésus-Christ, on renonce à soi-même, certes, mais on gagne tout. On gagne Christ. Qu'est-ce que vous préférez, vous-même ou Christ? C'est pour ça que Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parce qu'il a compris que, pas plus tôt que sa vie, il y a un trésor plus grand que cela encore, c'est la vie de Christ en lui. Et il préférait 100 fois, il préférait 1000 fois vivre un jour de la vie de Christ que de vivre 1000 jours ou plus encore de sa propre vie d'orgueil, d'autosatisfaction, de contentement. Il a compris que tout ça, ça ne menait à rien et qu'il fallait prendre la croix. C'est ce qu'il dit en Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux, de tout à fait extraordinaire. J'ai été crucifié avec Christ. C'est de quel temps, là, vous qui êtes grammairien? C'est le passé. C'est quelque chose qui est fait, d'une façon définitive. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, et si je vis encore dans la chair, car nous y sommes encore, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nous lisons aussi les passages qui nous ont été déjà mentionnés en Philippiens chapitre 2 et Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 8 à 10, nous lisons « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, en devenant et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Donc, Paul, qui connaissait Christ personnellement et intimement, a préféré largement renoncer à lui-même et prendre Christ comme celui qui est le principal dans sa vie. Alors, on va être pratique pendant quelques minutes avant de terminer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, on n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui de prendre sa croix? Alors, ça veut dire d'abord, et nous trouvons de nombreux passages à ce sujet dans les Saintes Écritures, renoncer à se placer au-dessus des autres. Et on a un exemple extraordinaire de ça dans la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand prophète de tous. Et voilà qu'on vient lui dire, mais tu sais, Jean-Baptiste, il semblerait que les disciples de Jésus baptisent plus que tes disciples, il faudrait que tu fasses quelque chose. Et Jean-Baptiste a dit, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Prendre sa croix, c'est se dire, aujourd'hui, je dois diminuer. Ça vous fait envie? Aujourd'hui, je vais m'abaisser. Aujourd'hui, je vais diminuer. C'est ça, prendre sa croix. Ce n'est pas vouloir être celui qui est au-dessus, c'est pousser les autres pour qu'ils montent. Et il y a un principe physique indéniable, quand vous poussez les autres, vous descendez. Et c'est ce que le Seigneur a dit quand on t'invite dans un festin choisi. Vous l'avez pas appris par cœur celui-là. La dernière place. Pas la meilleure, la dernière place. Eh bien, c'est ça, prendre sa croix. Accepter alors que vous avez peut-être un rôle, une importance, eh bien, d'être mis de côté, si cela est la volonté de Dieu, et de laisser passer d'autres personnes, renoncer à être au-dessus des autres. C'est tout à fait contraire à l'esprit de ce siècle. Aujourd'hui, on vous dit, même dans les églises, attention, même dans les églises, on vous dit, si vous avez un rêve, il faut atteindre votre idéal et votre rêve. Il se fait que, par le plus grand des hasards, tout le monde a le rêve d'être le premier. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Eh oui, comment on va faire? Alors, le Seigneur nous appelle à suivre son exemple. Porter sa croix, c'est rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est annoncer Jésus-Christ à ceux qui sont perdus. Et je suis sûr qu'il y a parmi nous ici des gens qui n'ont jamais porté cette croix-là. Seigneur, je prie, Seigneur, pasteur, je prie pour toi pour que tu évangélises. Et puis, je prie pour qu'il y ait des jeunes envoyés à l'Institut biblique, qu'ils puissent évangéliser notre pays. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Ah oui, mais tu dois prier, tu dois aussi évangéliser toi-même. Le Seigneur t'a choisi pour évangéliser toi-même. Et témoigner à qui? Jésus met souvent l'accent là-dessus. Témoigner à qui? Eh bien, porter ta croix, c'est de parler, d'annoncer l'évangile à ceux que tu n'aimes pas. C'est bien facile de parler aux gens qu'on aime. Mais c'est autre chose de parler aux gens qu'on n'aime pas. Hein. Et je suis sûr que si on va chercher, il y en a partout, tous parmi nous, eh bien, il y a un certain genre de gens qu'on n'aime pas. Hein, soit c'est la couleur de la peau, soit c'est le milieu socio-éducatif, soit c'est la façon de se conduire, etc. Il y a toujours quelqu'un qu'on n'aime pas. Hein, ça peut être souvent, c'est notre voisin. Hein, voilà. Eh bien, c'est à lui qu'il faut annoncer l'évangile, à celui qu'on n'aime pas. Hein, c'est ça, porter la croix. Le Seigneur ne nous a pas demandé de partir au Club Med. Hein, il nous a demandé de porter la croix. Porter la croix, c'est faire ce que l'on n'aime pas faire. Hein, tout en sachant que le Seigneur nous en apportera la récompense, il nous a placés là pour ça. Et en allant encore plus loin, ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, aimer ses amis, hein, non, ses ennemis, hein. Aimer ses ennemis, hein. Ça vous dit d'aimer vos ennemis? Alors, y a des gens qui s'en sortent et ils disent, moi j'ai pas d'ennemis. Hein. Voilà. Mais j'aimerais vous dire que si vous n'avez pas d'ennemis, vous avez un problème. Que vous n'avez pas annoncé la croix de Christ. Si vous avez annoncé la croix de Christ, vous aurez des ennemis. Il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas d'ennemis, il a un problème. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est la mode de dire « Oh, moi j'aime tout le monde, je veux que tout le monde m'aime, etc. » Oui, mais si vous voulez faire ça, c'est très bien, mais vous n'allez pas prêcher la croix. Vous n'allez pas annoncer Christ. Hein? Si vous annoncez Christ, si vous prêchez la croix, vous aurez des ennemis. Hein? Et le diable s'en charge, vous n'avez même pas besoin de les chercher. Hein? Mais le porter la croix, c'est aimer ses ennemis et leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Et puis plus encore, alors là je vais toucher au cœur des Français, hein, parce que nous avons inventé quelque chose en France qui n'existe dans aucun pays au monde. Hein. Alors, il y a déjà plusieurs choses d'ailleurs dont nous sommes très fiers, hein, mais il y en a une, je ne sais pas si on doit en être fier. Alors, vous savez que si vous avez fait un catéchisme, il y a plusieurs catégories de péchés. Lesquels? Alors, le péché originel, voilà. Les péchés véniels, les péchés mortels ou capitaux, exactement. Et les péchés mignons. Ah! Voilà. Il n'y a qu'en France que ça existe, ça, les péchés mignons. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Mais nous, nous disons, moi, je suis un bon chrétien. Parce que je ne commets pas les péchés que dénonce le pasteur. Tant mieux. Hein? Peut-être pas pour le pasteur, mais pour vous, tant mieux. Hein? Mais le Seigneur revoit tous les péchés, même ceux qui nous sont mignons, même ceux auxquels nous sommes attachés, même ceux qui sont pour nous des péchés, et peut-être pas pour le voisin, parce que pour nous, c'est quelque chose qui suscite chez nous la convoitise, l'attachement, même un esclavage, hein, et qui chez quelqu'un d'autre, ce ne sera pas le même cas. Eh bien, le Seigneur, quand il vous appelle à porter la croix, je suis sûr que quand j'ai dit péché mignon, vous avez tous, chacun, pensé à quelque chose et pas la même chose. Parce que chacun dans notre vie, nous avons une, plusieurs choses auxquelles nous sommes attachés profondément, et ça, il ne faut pas qu'on me l'enlève. Eh bien, porter la croix, c'est renoncer à ses péchés. Car le Seigneur ne veut pas de votre vie 50%. Il ne veut pas 70%. Il ne veut pas 95%. Il ne veut même pas 99,99%. Il veut 100% de votre vie. Quand Jésus était sur la croix, quel pourcentage de sa vie et de son sang a-t-il versé pour nous? Hein? Est-ce qu'il s'est arrêté au bout de 3 heures en disant j'en ai fait assez? Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, son sang a été versé jusqu'à la dernière goutte. Il a tout donné pour que nous soyons sauvés. Et il nous appelle en retour à tout donner pour lui. Il ne nous appelle pas à nous arrêter en route et à dire « je garde telle ou telle chose dans ma vie, ça m'appartient hein. ». Eh bien, le Seigneur nous appelle à renoncer à ces choses et à vivre entièrement libre, car ce verset nous a été cité aussi, Romains 6, verset 7 à 14, nous lisons ici que si nous sommes, verset 8, si nous, verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et qu'il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous vivions la vie du ressuscité, la vie de Christ. Hein, Paul disait, afin que je connaisse la puissance de sa résurrection. Mais j'ai une nouvelle pour vous, pour être ressuscité, il faut d'abord être mort. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Voilà. Et le Seigneur nous dit, celui qui est mort, en plus il a un avantage, celui qui est mort, il est libre du péché. Hein. Et tant que l'on retient des péchés, même minimes, même inconnus, on n'est pas mort encore. Hein. Et donc on ne vit pas pleinement la résurrection pleine et entière du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Le Seigneur nous appelle, c'est un drôle de message que l'Évangile, venez mourir, hein, venez être crucifié, hein, mais venez recevoir aussi la nouvelle vie de Jésus-Christ qui veut vous transformer entièrement, vous faire vivre en nouveauté de vie, libre entièrement du péché. Alors pour conclure, je rappelle qu'après la croix vient où il est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Hein? Il est dans la présence de Dieu, il est au milieu du trône de Dieu, il est glorifié. Et il ne nous a pas oubliés, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous appelle à passer par la croix pour aboutir à la gloire. Et il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui, on aimerait changer la croix, adoucir la croix, raboter la croix, raccourcir la croix. Hein? Mais il n'y a qu'une croix, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ et c'est celle-là qui conduit à la gloire. Alors, aujourd'hui, qui veut, comme Simon de Cyrène, prendre sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons fermer les yeux. Nous allons incliner nos têtes devant le Seigneur maintenant.